Bonjour et bienvenue sur Radio Libertaire, chers auditeurs et chères auditrices. Vous écoutez donc la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Il est 10h et vous êtes avec nous sur Délibéré, l'humble relais des luttes étudiantes que Mariam et moi-même animerons aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas seuls dans le studio puisque nous accueillons aussi Vivi, militante écologiste radicale et surtout déserteuse invétérée qui vient nous parler de ce qui l'a poussée à quitter le système de l'industrie conventionnelle. Avec elle, nous parlerons donc de désertion. La désertion, c'est le résultat d'une prise de conscience écologique individuelle qui se heurte à la machine bien huilée du capitalisme marchand. Les individus en principe les mieux intégrés au système, les ingénieurs qui le conçoivent très concrètement au quotidien, réalisent qu'ils participent à l'effondrement de la biodiversité et à l'exploitation du vivant humain et non humain. Face à ce constat, certaines décident de tout quitter et deviennent des déserteuses. C'est d'ailleurs le nom de ton collectif, les déserteuses, qui cherche à rassembler ces ingénieurs en mal d'alternatives écologiques. Et pourtant, des alternatives, il y en a, et tu es même aller à leur recherche. Bonjour Vivi.
Bonjour à tous.
Alors, je pense qu'on peut commencer tout simplement par ton parcours personnel et je vais peut-être déjà te demander à quel moment tu as pris conscience en fait de l'écart qu'il y avait entre tes valeurs personnelles politiques et évidemment ton métier d'ingénieur.
Je pense que, en préambule, j'ai envie de préciser que mon engagement écologiste, il s'est construit à partir d'expériences vécues. Et mon engagement écologiste, il s'est construit surtout à partir d'un engagement féministe et anti-autoritaire. C'est le fait d'avoir vécu le sexisme et l'autoritarisme à l'adolescence qui m'a menée, pour des questions de survie mentale et physique, à prendre conscience des oppressions systémiques, à prendre conscience d'enjeux politiques et du désastre écologique. Et à ce moment-là, j'ai voulu choisir un métier qui me permettait de créer des conditions d'existence dignes. Et à l'époque, quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai choisi de faire des études en génie urbain, avec la certitude que l'aménagement de la ville et des territoires allait dans le sens des intérêts des populations. Et petit à petit, au fur et à mesure de mes missions, je me suis aperçue que c'était une véritable mascarade.
Rien que ça, une mascarade.
Oui, moi je travaillais dans le milieu du recyclage, plus exactement. Et j'ai compris que les questions de tri, de recyclage, invitent les populations à une écologie individualiste, à une dépolitisation. On n'invite pas à la prise de conscience d'une structure qui conditionne nos modes de vie et qui nous laisse croire qu'en triant nos déchets, on va avoir une marge de manœuvre sur nos conditions de vie.
Et du coup, c'est finalement un engagement qui t'est venu très tôt. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment t'as fait pour évoluer, notamment dans le milieu l'école préparatoire et puis des études, parce que c'est vrai que c'est un milieu qui demande beaucoup, beaucoup d'investissement en tant qu'étudiant. Donc comment on fait pour, en plus de cette charge mentale, arriver à porter ce regard critique?
En fait, j'étais pas destinée à faire des études d'ingénieur. Déjà sociologiquement, dans ma famille, mon père est coiffeur, ma mère est psychologue, mais elle a fait ses études très tard. Elle avait pas de diplôme initialement. Et j'ai eu une scolarité qu'on peut appeler difficile. Et c'est en fait une rencontre au lycée d'un garçon d'un milieu plutôt bourgeois qui m'a en fait ouvert la porte à la fois en termes de soutien scolaire et d'imaginaire vers l'ingénierie. Et moi, j'ai compris à ce moment-là, j'avais 17-18 ans, qu'en fait, faire une classe préparatoire et être ingénieur, c'était une façon de m'extirper de ma condition. Et c'est à ce moment-là que je me suis jetée complètement dedans avec... avec une forme de, comment dire, adhérer à l'école, aux classes préparatoires et au monde de l'ingénierie, c'était me racheter un peu une condition, c'était acquérir une place dans la société. Et donc, pour une fois, on me laissait tranquille et j'avais une valeur. Alors que quand j'étais une adolescente qui criait contre le sexisme et l'autoritarisme, c'était compliqué à vivre pour moi. Et donc, j'ai complètement à adhérer à ce moment-là et en même temps j'ai vu plein de dysfonctionnements, le goût de l'élitisme qui nous est transmis, de la compétition et en fait il y avait une sorte de double comment dire une dissonance en moi où à la fois j'avais une pièce de théâtre à jouer en allant au travail ou en allant en classe prépa et en même temps en moi je comprenais bien que j'avais pas ma place dans cet espace, comme un sentiment d'impostrice.
C'est quand même triste de pas se sentir à sa place dans des écoles préparatoires. C'est un peu le vécu de plein de gens un peu qui sont à la recherche d'ascension sociale, qui viennent de milieux pas très bourgeois et qui se retrouvent dans des grandes écoles, de ne pas se sentir à sa place. Et je trouve que c'est un constat un peu malheureux parce que les études, on nous vend comme quoi la méritocratie, l'égalité des chances, on est tous les dignes-fils de Marianne. Et je trouve ça très triste quand même parce que c'est un sentiment. J'ai aussi des échos, même par rapport à mes études aussi, par rapport à d'autres amis qui sont là. Ouais, c'est un peu compliqué, même le milieu, les sorties, les activités extrascolaires. C'est un truc qui peut mettre mal aussi et je pense juste ça peut conduire à une désaction des milieux intellectuels. Même pas forcément par rapport aux idéaux écologistes. Juste ça, c'est un truc qui pousse pas mal de jeunes qui viennent de milieux pas très aisés et moins élitistes à abandonner des études ou de placer entre
soit,
guillemets.
Ouais, soit à les abandonner, soit à se conformer. Oui. En fait, c'était le dilemme auquel tu étais confrontée. Finalement, te dire, toi, venant d'une classe sociale peut-être moins favorisée, qui avait envie de cette reconnaissance et besoin de cette reconnaissance, puisqu'elle est vitale dans une société très compétitive, et bien c'est vrai que tu étais face à ce choix. Et tu l'as suivi combien de temps?
Tout à fait, c'est vraiment cette alliance de la méritocratie, du développement personnel qui est à l'œuvre. Je l'ai suivi 4 années après mon diplôme. J'ai pas déserté tout de suite, justement parce que ce besoin de gagner de l'argent, ce besoin d'exister, de reconnaissance, et puis aussi l'ingénierie permet d'accéder à un mode de vie bourgeois qui est très confortable. Et donc le remettre en question pour revenir à ce que j'étais avant, finalement, c'est ça qui s'est joué en moi, c'était un choix difficile. Et ces 4 années, c'est aussi lié au fait que au moment de choisir mon école d'ingénieur, mes parents étaient en plein divorce, l'argent était un sujet tabou. Je devais, pour moi, rester à Paris. Et en fait, la vie à Paris, ça coûte cher quand on est étudiante. Et à ce moment-là, il y avait 2 choix qui s'offraient à moi. C'était soit prendre un crédit bancaire pour financer, alors certes les études, mais c'était pas tant l'école, mais surtout le mode de vie. Ou prendre une école qui me rémunérait, donc être élève fonctionnaire, et c'est le choix que j'ai fait. Et donc, en échange d'un salaire pendant mes études, qui m'ont permis de m'autonomiser quand même de la sphère familiale et aussi de gagner en autonomie dans ma vie, de mettre de l'argent de côté, ce qui m'a permis quand même de déserter au début, avant de retrouver un autre travail. J'avais en échange 8 ans de service à faire à l'État, et je devais en faire au moins une petite partie après mon diplôme. Et donc c'est aussi pour ça que je ne suis pas partie tout de suite après mon diplôme. Mais ça m'a aussi permis de voir à quel point les métiers dits à impact environnemental, enfin l'ingénierie environnementale, c'est un mensonge.
Bah, ce sera très intéressant d'expliciter ça, je pense qu'on y reviendra. Mais c'est vrai, une petite parenthèse, on est quand même, on constate quand même que le système d'aide justement pour les étudiants et étudiantes est vraiment conditionnalisé à la richesse familiale en fait. Donc c'est extrêmement inégalitaire et ça c'est quelque chose qui n'est quasiment pas remis en question, qui n'est pas porté dans le débat plus que ça, alors que c'est vraiment à la base d'une inégalité quand même très très forte. Et tu dis que tu as quand même réussi à t'échapper un tout petit peu avant de faire ces années dues à l'État en allant du coup en voyage, c'est Erasmus ou c'était service civique, c'était quoi?
C'était des échanges avec des universités à l'étranger, donc oui, j'ai eu la chance d'avoir un échange universitaire au Brésil. Et en fait, à ce moment-là, j'ai été au contact de personnes qui n'étaient pas ingénieurs, qui étaient à l'université. Et c'est vrai qu'entre l'université et l'école d'ingénieurs ou de commerce, bah, c'est pas les mêmes trajectoires, c'est pas les mêmes milieux sociaux, c'est pas les mêmes choix de vie. Et donc j'ai été au contact. En fait, je suis un peu sortie de ce communautarisme scientifique, ingénierial, et j'ai vu d'autres réalités, d'autres conditions d'existence. Et ça m'a montré aussi que on pouvait dévier de sa trajectoire et qu'on n'était pas obligé de parvenir.
Ça a dû être quand même une sacrée découverte, c'est sûr. Et du coup, après, tu t'es redirigée donc vers la France et puis tu cherchais un travail. Et qu'est-ce que tu as eu comme première expérience professionnelle? Et est-ce qu'elles t'ont finalement confortée aussi dans l'impératif de désertion?
Alors, ce qui est un peu amusant, c'est que après avoir fait cette expérience au Brésil, j'ai eu un stage de fin d'études à Londres dans une grosse boîte de construction, et c'était un peu un prérequis de la part aussi de mes parents. Tu vas être fonctionnaire, donc il faut que tu bosses dans le privé absolument. Et alors que je ne voulais pas. Et au final, cette expérience m'a quand même permis de réaliser à quel point c'était un univers complètement aseptisé, prédateur, avec des respects des normes quand il s'agit de construire des logements sociaux qui étaient vraiment à l'arrache, parce que c'est des logements sociaux. Et en fait, je me suis dit, mais ok, jamais je veux bosser pour une multinationale dans ce milieu-là. Et ensuite, donc, on m'a affecté à un poste qui ne me convenait pas du tout, donc j'ai dû me syndiquer pour en partir. Voilà, c'est un peu les coulisses de la fonction publique. Et ensuite, je me suis dit, allez, c'est crise environnementale, c'est le désastre, il faut agir, je vais choisir un métier d'ingénierie environnementale. Et c'est là que j'ai trouvé ce poste dans le secteur du tri. Et j'ai vu en fait que en fait, tout était verrouillé. Toutes les décisions sont prises à l'échelle européenne, à l'échelle nationale. Les ingénieurs, surtout à mon niveau, on est des exécutants. En fait, on n'a aucun pouvoir de décision. Et si, par contre, on gueule un peu trop fort, on est mis au placard. Et en fait, mon métier consistait à transmettre des éléments langage de greenwashing et faire passer l'argent public dans les grosses multinationales du secteur, dans les grosses entreprises du secteur environnemental. Et en même temps, je voyais des activistes consacrer tout leur temps à essayer de bousculer les choses, donc de réagir en termes de structure et non pas d'écologie individuelle. Et j'ai voulu les rejoindre. Je ne pouvais pas rester à consacrer 45 heures de ma semaine à autre chose que ça.
D'ailleurs, moi, ça m'intéresse quand même. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les aberrations que tu as vécues pendant ton travail, justement, toutes les hypocrisies, comment s'est organisé finalement ce système pour que finalement ça reste que du greenwashing et pas du tout de l'action publique en faveur de l'environnement?
En fait, pour des détails peut-être un peu techniques, aujourd'hui, le recyclage, c'est un pansement, c'est une mesure cosmétique en fait à la productivité des emballages. Alors moi, j'étais vraiment dans le milieu de l'emballage. Alors certes, le recyclage permet d'amoindrir un certain extractivisme minier. Donc là, ça peut être intéressant là-dessus, mais en fait, l'extractivisme, il n'est pas en train de cesser avec le recyclage, ou vraiment à la marge. Et aujourd'hui, il n'y a pas de mesure qui oblige réellement à utiliser des matières qui vont être recyclées. C'est de l'incitation, mais ce n'est pas de la contrainte. Et surtout, en fait, on continue à produire. On continue complètement à produire. Et là où j'étais, c'est-à-dire que l'argent qui était octroyé aux collectivités, c'était de l'argent qui était fourni par les industriels de l'emballage en fonction... du manque de recyclabilité ou non des emballages qui mettaient sur le marché. Et donc en fait, si les, par exemple, un exemple, si les industriels de l'emballage produisent moins, ils vont donner moins de déchets non recyclables, ils vont donner moins d'argent, et du coup les collectivités vont avoir moins d'argent aussi pour mettre en place un système de recyclage. Qui est-ce qui va collecter les déchets? Qui est-ce qui gère les centres de tri? C'est des multinationales. Donc en fait c'est un vase clos, c'est un huis clos, enfin je sais pas comment ça...
Et ils ont tout intérêt finalement à produire davantage, ouais. Et à finalement faire fructifier un système hyper consumériste.
Tout à fait.
Du coup, pousser les gens à faire du tri, c'est aussi une façon aux décideurs politiques de jouer sur la conscience écologique des gens et à les faire culpabiliser sur les incapacités à prendre de réelles décisions à l'échelle internationale ou nationale en disant « Non, c'est à vous de faire le tri, du coup, c'est votre responsabilité de prendre soin de la planète. Nous, on s'occupe de juste se faire de l'agence. » Tu vois, c'est...
Tout à fait. Ouais. C'est vraiment un vecteur de dépolitisation et d'individualisation plutôt que de penser une organisation collective politique.
Ouais, du coup, le fait de consommer, ça te dit « Ah non, si je me contente juste de faire du tri, c'est déjà pas mal. » Absolument pas, cela ne changera rien. Et on voit bien le rapport du GIEC chaque année, c'est encore plus affligeant en se disant « Ah non, mais on fait le tri, mais rien ne change. » Mais on s'étonne que rien ne change parce qu'il n'y a pas de réelle décision. On ne peut pas juste se limiter à faire quelques tri dans les déchets. Alors que, oui, comme tu disais, moi je travaille dans la restauration. Quand je vois le déchet en une journée qu'on collecte, mais vraiment c'est immense. Et souvent, les tri ne sont pas faits parce qu'il y a des entreprises justement qui viennent récupérer les déchets et qui s'occupent de faire le tri à notre place. Là, mais c'est absurde. Enfin, comme procédé.
Oui, et en plus, ce que tu décris, c'est aussi le fruit d'une complaisance totale des pouvoirs publics avec les producteurs de déchets, enfin, les entreprises. Et du coup, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. C'est pas du tout à la hauteur de l'urgence environnementale. Et c'est vraiment un business. Il faut le voir comme ça.
Eh bien, avant de continuer sur ce business de l'industrie conventionnelle, je crois que tu avais un message à nous faire passer.
Il a suffi d'un œil pour qu'il se mette à chanter.
Thank you.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Vous venez bien sûr d'écouter Sexy Sushi qui refuse de travailler, tout comme toi, Vivi. Et tu n'es pas la seule d'ailleurs, puisque tu as rejoint un collectif, les Désertes Heureuses. Et j'aimerais bien qu'on en reparle un peu. Alors, pour commencer, peut-être parler de ce que tu as fait quand tu as décidé de déserter ton métier. Tu as décidé à la fois de partir et de rejoindre plusieurs collectifs et de filmer. Donc ton expérience, puis après tu as rassemblé tout ça au sein d'un livre qui voilà, raconte ces expérimentations. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu?
Oui, je pense que c'est important de préciser aussi que donc, quand j'ai quitté mon travail après 4 années de loyaux services, j'ai eu un sentiment de déclassement assez fort qui symbolisait aussi à quel point le travail nous définit. J'ai eu aussi une sorte de, comment dire, de dette familiale. Enfin, je me suis sentie prise d'une dette familiale aussi, de renvoyer finalement ma famille. Enfin, je suis la seule femme diplômée scientifiquement de ma famille. Donc il y avait ce sentiment de culpabilité et donc j'ai voulu un peu dans une sorte de rapport productiviste à moi-même faire quelque chose de ma désertion. Ça montre à quel point ce système de travailliste nous happe. Et il y avait aussi un autre enjeu pour moi, c'était de rassembler, enfin de réduire ce fossé qui existe pour moi aujourd'hui entre un mode de vie traditionnel du métro boulot dodo et ce qu'on peut appeler un peu le monde des alternatives. Je suis partie de ma posture où je découvrais complètement cet univers-là et je l'ai découvert aussi par le biais de ce que je peux appeler une écologie positiviste, environnementaliste, carbocentriste, c'est-à-dire on va faire des focus sur des chiffres scientifiques, sur des questions de la question du vivant, qui est quelque chose de très flou. Donc ça va être tout ce qui est permaculture, potager, biodiversité, empreinte carbone, donc encore quelque chose d'une écologie très individuelle. Moi, l'écologie positiviste aussi, où il n'y a pas vraiment de lutte dans l'alternative, c'est-à-dire qu'on va créer une alternative pour aussi son bien-être ou pour répondre, pour faire taire un peu notre éco-anxiété. J'ai découvert beaucoup d'alternatives qui allaient dans ce sens-là, donc un peu tout le panel, donc ça va être tout ce qui est habitat léger, permaculture, low-tech, vélorution, gouvernance partagée, qui sont, je trouve, des initiatives très riches que j'ai voulu documenter. Pour justement enrichir notre imaginaire, diffuser, rendre accessible.
Et d'ailleurs, je rappelle que toutes ces vidéos donc, sont disponibles sur YouTube. Tu les as laissées très généreusement à la vision de tous et toutes.
Oui, c'est ça. Ça me tenait à cœur aussi de... finalement, dans cette première année et demie d'exploration et de travail journalistique, de ne pas être dans un rapport marchand à l'information que je diffusais. Je faisais tout ça bénévolement. Donc moi, comme je suis en disponibilité de la fonction publique, j'ai pas de RSA, j'ai pas de chômage, donc j'étais vraiment sur mes économies. Il y avait cette question de l'argent aussi qui a conduit à faire ce travail, parce que je me disais, à un moment, il va falloir que je regarde de l'argent. Et puis aussi, ça a marqué un tournant. À un moment, il y a eu un tournant, c'est-à-dire que j'ai bien compris que toutes ces alternatives, elles sont chouettes, mais si elles s'inscrivent pas dans une conflictualité politique, en fait, on reste dans de l'écologie individuelle. Et c'est à ce moment-là que j'ai essayé d'associer un peu plus alternative et lutte, jusqu'à ce que je rejoigne à un moment les milieux d'autonomie politique qui porte pour moi l'écologie radicale qui est la plus à même de répondre aux enjeux sociaux et environnementaux actuels.
Et donc c'est ce que portent, j'imagine, les déserteuses. Est-ce que tu peux me raconter un peu qui en sont les membres, pourquoi vous vous êtes rassemblés, et puis après surtout comment vous vous organisez dans ce collectif ?
Alors, les déserteuses, c'est un collectif qui a vu le jour autour de l'été 2021 et que... Alors, été 2021, non, je... oui, c'est ça, et que j'ai rejoint en début d'année 2022, donc il y a un an. Donc c'est un collectif qui rassemble surtout des déserteureuses de l'ingénierie. Et c'est un collectif qui porte une critique radicale. Donc quand je dis radicale, c'est qu'il va à la racine des structures, des enjeux politiques qui sous-tendent l'industrie, donc, et l'industrie et du métier d'ingénieur. C'est-à-dire qu'on vient aussi remettre en question le métier d'ingénieur, donc qui est au service d'un état industriel, d'un état policier, d'un état autoritaire, qui est au service d'une bourgeoisie, qui est aussi au service du colonialisme. Les ingénieurs ont technique de la guerre, en fait. Et c'est la guerre au territoire, c'est la façon de pouvoir contrôler les territoires. C'est comme ça que l'ingénierie s'est créée. Et donc, c'est cette approche radicale qu'on porte en soutenant le démantèlement en fait de toute cette structuration ingénieriale et aussi en faisant voir d'autres façons de vivre, en essayant d'expérimenter d'autres façons de vivre qu'une vie orientée autour du travail marchand.
Bah, surtout, c'est vraiment la dimension collective et combative de votre démarche qui m'a beaucoup étonnée. Je vais juste lire quand même un petit extrait de la tribune que vous avez publiée dans l'Obs le 25 avril en 2023, avec aussi des membres du discours d'AgroParisTech en 2022, il me semble, et le collectif Vous n'êtes pas seul. Et peut-être qu'après tu pourras nous dire du coup quels sont les liens de ces collectifs entre eux. Mais deux courtes citations, la première: déserter, c'est aussi briser l'isolement pour se redonner une puissance d'agir collective. Je pense que ça, tu l'as assez bien explicité. Et après, moi, un passage qui m'a aussi beaucoup plu, c'est « Étudiante, salariée, retraitée, sans emploi, désertons, envisageons toutes les formes de désertion comme des options non seulement possibles, mais nécessaires, sérieuses et désirables. Créons des réseaux de subsistance où chacun et chacune pourra vivre dignement. Préparons-nous à lutter pour celles et ceux qui nous entourent et en solidarité avec celles et ceux qui sont loin, pour défendre des milieux vivants et pour reprendre au Tout-Puissant ce qui appartient à tous et toutes. » Et effectivement, là, on voit que bon, vous ne vous contentez pas de jardiner à l'écart du système marchand. Vous essayez vraiment de vous inscrire dans une dimension combative et peut-être aussi avec d'autres collectifs.
Oui, cette tribune, elle a été coécrite avec des membres des agros qui bifurquent et des membres du collectif Vous n'êtes pas seul. Donc les agros qui bifurquent sont assez connus justement pour avoir aussi mis plus en lumière ce mouvement de désertion de l'ingénierie qui était plutôt confidentiel avant leur discours. À la remise des diplômes d'AgroParisTech en 2022. Et le collectif Vous n'êtes pas seul, donc il y a un collectif qui s'adresse à des personnes qui sont dans des métiers nuisibles et qui voient, qui observent des dysfonctionnements et qui aimeraient en sortir, donc soit de façon discrète, soit de façon un peu explosive, en lançant des alertes ou en faisant des démissions publiques, officielles. Et donc c'est le collectif Vous n'êtes pas seul accompagne aussi les personnes qui le souhaitent.
Et pour ça, comment vous organisez très concrètement ? Quels sont vos moyens d'action ? En tout cas, peut-être, tu peux nous parler davantage des déserteuses. Comment vous allez impacter votre public, qui est surtout les jeunes, j'imagine, les jeunes ingénieurs en école ou peut-être au début de leur carrière ?
Oui, alors avec le collectif des déserteuses, on a une organisation assez décentralisée, assez autogérée finalement. Il va y avoir, alors, les déserteuses, c'est organisé autour d'un groupe de personnes qui vivent de façon éparpillée. Plutôt sur l'Hexagone. Et en fait, chacun localement va incarner donc le collectif. Donc, il y a des personnes qui vont aller dans des écoles d'ingénieurs pour porter justement ce discours d'écologie radicale et pour montrer des modes d'action possibles, notamment rejoindre des luttes, faire des enquêtes militantes, participer à un militantisme des fois qui peut être plutôt urbain, en accompagnant, en étant en soutien des luttes sociales. Il va y avoir aussi d'autres personnes, par exemple, qui vont affirmer médiatiquement une position, d'autres personnes qui vont organiser, là par exemple, on va avoir en septembre un événement dans le Nord-Ouest pour pouvoir faire du réseau sur des fermes collectives qui portent aussi une écologie radicale et pour inviter des personnes qui sont dans ces trajectoires de désertion à pouvoir se mettre en réseau et s'organiser collectivement pour pouvoir justement ce que dit dans la tribune, construire collectivement notre subsistance et pas rester dans son individualité. Donc il y a vraiment plein de petites actions. Là par exemple, l'année dernière, j'avais participé à un atelier où là c'était pas contre ingénieurs, mais avec justement toutes sortes de personnes, des travailleuses des milieux sociaux, des personnes qui n'étaient pas en train de travailler au chômage, et milieu artistique, justement, qui se rassemblaient pour s'interroger sur ok, c'est quoi nos souffrances au travail, pourquoi on continue de travailler, qu'est-ce qui nous freine à la désertion, qu'est-ce qui nous permettrait de déserter, pourquoi on a envie, qu'est-ce qu'on souhaite collectivement faire. Et l'idée, c'est justement de sortir de notre impuissance individuelle et de gagner en puissance collective. C'est ça qu'on essaie de faire avec les déserteuses.
Et c'est vrai que suite à ça, j'ai quand même deux questions. La première, c'est la question de la désirabilité de la désertion, puisqu'effectivement, ça nécessite des moyens économiques. Et savoir, étant donné que toi, tu l'as subi aussi et que tu as encore, il me semble, quelques années aussi à passer dans le système, on va dire, conventionnel pour rembourser tes années d'études. Peut-être tu pourrais nous expliquer un peu comment vous essayez de rendre ça plus accessible. Et la deuxième chose, c'est d'essayer d'explorer la question aussi très spécifique du rapport au travail, parce que quand tu dis pour savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire en fait après la désertion, là toi t'es rentré dans tout de suite une logique de reproduire quelque chose, même si c'est pas dans une logique marchande, de reproduire, c'est toujours être dans la productivité. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives?
Oui, alors avec les déserteuses, on n'a pas la prétention ou la vocation d'avoir un prêt-à-penser ou un solutionnisme. L'idée justement, c'est de construire ces autres possibles ensemble. Et en fait, qui va être adapté être à l'image de par et pour les personnes qui vont les bâtir. Il y a des personnes, par exemple, qui vont essayer de créer des habitats collectifs qui sortent de la propriété privée en essayant de développer une autonomie, une forme d'autonomie alimentaire ou développer des activités culturelles et du coup de se mettre en réseau pour pouvoir... Et donc, de pouvoir échapper à cette question de l'argent, parce qu'en fait, derrière la question de la désertion du travail, il y a la question économique. Donc comment on fait pour s'émanciper de l'argent, en essayant de travailler l'autosuffisance, mais aussi en... Donc, il y a aussi la question des services publics. Donc, comment aujourd'hui on peut contrevenir à des services publics qui sont défaillants? Je pense par exemple aux questions de santé, d'éducation. Donc, comment en fait on essaye aussi de créer ça, de créer des bulles de respiration et de s'autonomiser? Voilà, il y a toutes ces questions-là qu'on se pose et où on invite les personnes qui sont dans une trajectoire de désertion à essayer de bâtir ça collectivement sur des territoires. Et il y a aussi la question des luttes qui nous paraît, moi, personnellement, ça me paraît fondamental. On ne peut pas dissocier la création d'alternatives désirables à cette lutte contre un système qui broie. Et du coup, il y a toujours cet aller-retour à mettre un peu au centre de nos activités. Et donc, c'est aussi ça qu'on invite. On invite les personnes qui s'intéressent aux déserteuses ou les personnes qu'on en rencontre à avoir une culture aussi des luttes et à s'interroger. Alors là, peut-être qu'on peut se dire, ça rejoint un peu l'écologie individualiste ou du développement personnel, mais en fait, on se décrète pas anticapitaliste, féministe, anarchiste du jour au lendemain ou parce qu'on l'a décidé. Mais en fait, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose dans les collectifs. Il y a aussi donc toute cette micropolitique de rapport de pouvoir, de comment on lutte contre le patriarcat dans nos collectifs, comment on lutte contre le racisme dans nos collectifs, contre la transphobie. Et donc, c'est aussi ça qu'on essaye de faire prendre conscience aux personnes qui ont envie de déserter. Que c'est pas qu'une question d'argent, c'est pas qu'une question de confort matériel. Ça l'est, c'est important, mais que c'est aussi une question de lutte contre ce qui nous formate et ce qui nous broie.
Moi, je voulais intervenir parce que je trouve ça hyper intéressant. Et en fait, j'ai eu l'occasion de côtoyer des milieux de lutte, de désertion et d'alternative. Et il y a toujours un peu ce dilemme qui n'est pas facile à trancher parce que je comprends toujours les besoins de mise à l'abri des personnes, qu'elles soient tant pour les violences au travail que pour simplement ses convictions personnelles. Et donc, du coup, tu parlais de l'écologie individualiste, mais c'est vrai que c'est hyper chouette de pouvoir articuler les deux, mais on sent un conflit d'intérêts sur les besoins de mise à l'abri et la nécessité de la lutte. Donc concrètement, cette articulation-là, je la trouve toujours assez compliquée. Et peut-être que tu auras des exemples à nous parler de là, mais c'est encore des questions ouvertes que je me pose. Peut-être que ça te parle aussi.
Oui, je peux donner un exemple d'un lieu qui m'est cher, où justement on essaye donc de construire une forme d'autonomie, donc que ça soit donc on va avoir de l'autonomie matérielle, en récupérant de l'eau, en récupérant de l'électricité, en créant des structures donc pour pouvoir s'alimenter, se chauffer, dormir, avoir un espace de bibliothèque, avoir des espaces d'accueil où on essaye de pratiquer, même si bon, il y a beaucoup de biais à ce type d'accueil, un accueil inconditionnel au sens où on veut pas que l'argent ça soit un frein. Donc en fait, le lieu est gratuit. On fait en sorte que le lieu puisse être gratuit, mais rien n'est gratuit. Donc ça demande aussi de comment on s'organise pour celles qui peuvent avoir un peu d'argent et le mettre en commun. Donc on essaye de créer ça et en même temps on est hyper mobilisé sur plein de luttes locales, de luttes antifascistes, de luttes sociales pour des meilleures conditions de travail pour celles qui sont pas dans des trajectoires de désertion, des luttes féministes, des luttes écologistes sur le territoire ou ailleurs, en tout cas pour l'instant sur l'Hexagone. Et en même temps, on travaille sur nous, on essaye de se dire on voit bien qu'on a des biais de pouvoir, on voit bien qu'il y a du sexisme aussi dans notre collectif, de la transphobie, du racisme aussi, parce que finalement dans notre collectif, on est principalement des personnes blanches, donc voilà, ça vient poser des questions aussi. Donc c'est un peu ça, c'est une forme de... C'est quelque chose d'un peu peut-être brouillon, Et en même temps, qui rappelle qu'aujourd'hui, on n'en est que là, en fait. Aujourd'hui, on n'en est que là, et ça montre aussi qu'il y a besoin de bras. Et c'est pour ça que j'invite aussi à rejoindre ces espaces.
Ben, je pense que vous n'êtes pas les seuls à se poser toutes ces questions, et j'ai là un morceau qui devrait tomber à point nommé.
Éternelle question. Où mais où va-t-on? Bien que nous n'en sachions rien, on se demande depuis Platon. Depuis la sombre caverne où ceux qui nous gouvernent nous perdent, nous perdent, nous mènent les vies ternes que nous avons, les vies de merde que nous savons, liées à l'illusion à l'ombre de nous-mêmes que nous regardons. Est-ce bien à nous de demander pardon pour les paradis perdus dont ils nous parlent, dont nous partons à mesure que nous tardons à faire les choses et gardons l'habitude d'abdiquer à ce et entrerons ces chardons. Tout dépend sur quelle pente et dans quel sens nous allons. Avons-nous besoin que les vacances passent devant la télé dans le salon? Ma vie se réduit à l'amont, ta face qu'on me dit en amont. Pour que je sois acquis à l'idée que ça doit me guider, faire sans ça non. Choix privé tout plan d'action, bridé par l'implantation, inopiné dans ma conscience du sens de la consommation. Est-ce là la consolation? Pourtant de désolation, d'isolation, de sommation à acheter à chaque occasion.
Where do we come from? Where's home? Where do we go? What is the outcome? Let's explore what little we know. What are we made for? These things that we slave for, just to pay more in store so we can flatter our ego. Where do we go to? A whole new world or the old world? Prove where I can find the truth. Who do I go to? Where do we come from? Where do we go? Do we care? Do these lives take the same?
I'm looking for positivity, possibly and responsibility stopping me from constantly watching the economy dropping. See, all that I see is society craving pretty words from bad tongues, darker than the cancerous black lung. The media seem to think we eat what they're feeding us. It don't take a genius to know that they're deceiving us. Whatever happened to happy endings and good guy one? That is always a plot twist and the good die young. Damn, the good die young. My sister was 17 when she lost her son. Never could imagine the pain she had. Only a few years later her man would pass. And it's so sad that we look for the worst in a person. We searching and searching, not finding the worth in a person. So we turn to the churches. The more I write makes me nervous, cause I dig deep as I scribble these verses.
Where do we come from? Where's home? Where do we go? What is the outcome? Let's explore what little we know. What are we made for? These things that we slave for, just to pay more in store so we can flatter our ego. Where do we go? To a whole new world or the old world? Prove where I can find the truth. Who do I go to? Where do we come from? Where do we go? Do we care? Do these lives take us anywhere?
Tell me this, what is the meaning of life? If I embezzle from the rich to feed the poor, does that mean stealing is right? My feelings are like I'm peeking through a beam in the light, but it seems that the glare is so bright, it's piercing my sight. Is the bark better than bite? Do I write to please the masses? My actions, I keep them captive, they build up like lactic acids. Man, this world has got me flaccid, I'm masking, but still no answers. Banging at the side of the government, fact is trap is a bunch of acts.
Les acteurs, oui, mais le quoi? À l'heure qu'il est, je vois nos vies défiler sous nos yeux comme si l'on vivait deux fois. Des villes où téléguidés, l'on est pris, déprivé de choix. Où ils nous vident de nos envies, on s'envie de prier. Et de soi, à force de trimer de ça, gripper à ce qui mette là pour nous voir déprimer, de voir nos désirs primer cela, sommer de consommer pour se consoler de ce qu'on nomme, des questions qu'il faudrait oser se poser avant de se tirer de là.
Where do we come from? Where's home? Where do we go? What is the outcome? Let's explore what little we know. What are we made for? These things that we slave for, just to pay more in store so we can flatter our ego. Where do we go? To a whole new world or the old world? Prove where I can find the truth. Who do I go to? Where do we come from? Where do we go? Do we care? Do these lives take us? Where do we come from? Where's home? Where do we go? What is the outcome? Let's explore what little we know. What are we made for? These things that we slave for, just to pay more in store so we can flatter our ego. Where do we go? To a whole new world or the old world? Prove where I can find the truth. Who do I go to? Where do we come from? Where do we go? Do we care? Do these lives take us anywhere?
C'était Question, un titre de L'Inconsolable en duo avec Kay Wiz. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que si ce genre de rap engagé vous plaît, vous pouvez le soutenir en finançant notamment le nouvel EP de L'Inconsolable dont j'ai pu faire une interview récemment. C'est un rappeur et vegan à ses heures perdues qui s'est entouré de 4 comparses, Jam Helvis, Resturner, Scalpel et Sly 2, pour former un groupe de rap vegan et antispéciste, tant qu'à faire. Et ensemble, ils forment le groupe B12 en chiffres romains. et sortiront bientôt leur première EP, Que la salade, dont vous pouvez d'ores et déjà écouter un premier morceau sur Ulule. N'hésitez pas à aller précommander leur disque, car la campagne se termine dans 10 jours. Mais bon, on va en revenir à toi, Vivi, et aux déserteuses qui, comme toi, ont choisi de quitter le système du capitalisme technosolutionniste. Et on aimerait bien se dire qu'une fois que votre décision est prise, du coup, ça y est, tout c'est clair et vous arrivez enfin dans l'Eldorado promis. Mais non, on a bien vu tout à l'heure, tu commences à nous en parler, les collectifs, c'est toujours plus compliqué à gérer, notamment en termes de formation militante. Donc peut-être pour revenir sur une expérience qui t'a marquée et qui t'a fait progresser.
Oui, eh bien, à la fois, j'ai envie de dire, j'ai un peu deux expériences qui sont symboliques, un peu du clivage que je vois aujourd'hui dans les initiatives écologistes. J'ai vécu pendant un an et demi dans un écolieu qui, je dirais, m'a... Enfin, le terme qui me vient, c'est vacciner, c'est pas le mot que je préfère, mais qui m'a vraiment marqué sur l'absence de politisation des milieux alternatifs écologistes. Pas tous, hein, évidemment, mais une absence de culture politique, une absence de considération des oppressions systémiques, un anticapitalisme inexistant. Par exemple, certaines personnes font des écolieux basés sur des modèles d'investissement locatif, avec des stages de permaculture humaine qui valent plusieurs centaines d'euros, voire j'ai même vu un stage de plusieurs milliers d'euros pour un week-end de, je sais plus, peut-être 3 jours pour du koya.
Enfin, c'est danses. Formidable, ça.
Oui, voilà. Donc, en fait, on est vraiment sur une écologie de classe, qui est une écologie du bien-être, une écologie positiviste. Où en fait toute conflictualité est indésirable, on est sur du développement personnel, donc on répond à l'éco-anxiété par se réaliser soi-même pour retrouver le sens. Alors, je ne dis pas que c'est important le bien-être, je ne dis pas que c'est important, que c'est pas important le sens, le bien-être, d'être confortable, mais enfin c'est pas ça la réponse au désastre social environnemental, enfin ça ne peut pas être ça. En fait. Et surtout, ce que j'ai remarqué aussi, c'est une écologie clairement de classe. C'est-à-dire que qui peut se permettre ça? Qui sont les personnes qui sont intéressées par ça? Ben, c'est souvent des personnes blanches, hétérosexuelles, cisgenres, plutôt des milieux alors bourgeois, pour moi, c'est pas vraiment des... Enfin, c'est milieux bourgeois, mais milieux très diplômés. Et donc voilà, je suis maintenant assez hermétique et critique, peut-être un peu trop, ça me hérisse beaucoup le poil, ces milieux-là. Et donc voilà, mais après cette expérience, j'ai plongé complètement dans les milieux d'autonomie politique en disant moi, je ne suis pas eux, je ne suis pas elle. Et en même temps, je me suis aperçue que dans les milieux d'autonomie politique, il y avait un virilisme insupportable. qui, en fait, où il n'y a que la lutte, c'est que
des
manifs. Alors ça va être que des manifs sauvages contre les flics. On va vivre dans un survivalisme précaire. Encore une fois, qui peut se permettre ça? Moi, par exemple, en tant que personne, où j'ai des problèmes de santé, où je vois aussi autour de moi des personnes qui n'ont plus 20 ans et qui ont besoin d'avoir aussi un certain confort et qui peuvent pas vivre dans l'humidité des prises électriques qui risquent de s'électrocuter toutes les 5 minutes. Enfin, en fait, c'est pas. Enfin, pour moi, on parlait de désirabilité, c'est pas désirable. Et c'est aussi ce truc méga viril où, en fait, rien n'est organisé. Enfin, où l'anarchie rime avec anomie, l'absence de règles. Alors, en fait, qu'il y a rien de mieux pour recréer des prises de pouvoir. Et donc, voilà, c'est un peu ça maintenant que je me dis. Mais en fait, pour les personnes qui sont du coup pas des mecs, qui sont pas hétéros, parce que voilà, c'est encore des schémas donc basés sur l'hétérosexualité, la cisnormativité, tout ce qui est viril. En fait, quand on est, enfin moi par exemple, une meuf bi qui a des problèmes de santé, en fait moi je suis désolée, j'ai plus 20 ans, il y a ce truc, il y a des trucs que je peux plus me permettre. Je pense à ma vieillesse, comment on fait et je pense que c'est un peu la même chose pour plein de personnes et du coup c'est un peu ça que j'ai envie de dire, c'est il faut que l'on se décentre parce que pour moi, dans l'anarchisme un peu des fois que je vois survivaliste, viril ou très guerrier, c'est encore un peu comme une réponse à une quête de sens. Et en fait, on n'est pas du tout dans une démarche collective. Et donc, si, en fait, pour moi, il y a vraiment ce truc de si on veut se soustraire à l'État, bah, il faut au moins qu'on s'organise pour sortir les poubelles. Il y a un minimum de choses à faire. On peut pas dire, ah ouais, non, à bas l'hôpital, à bas tout, machin. Et en fait, bah, qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui sont malades? Enfin, ça va pas, quoi. Et voilà. Donc là, je pense que c'est comme ce que c'est encore ce que je disais tout à l'heure. Pour l'instant, on est beaucoup dans la théorie. On est peu dans la pratique et on se décrète pas féministe, anarchiste, anticapitaliste, écologiste. Il faut s'interroger sur qu'est-ce qu'on fait, nos pratiques, et surtout qu'on soit dans des démarches collectives et pour une diversité de personnes et pas que des personnes valides, hétéro, blanches, privilégiées.
Bah, du coup, pour revenir sur ce que tout ça... C'est assez intéressant de voir à quel point le problème, peu importe le milieu dans lequel on milite, que ce soit de l'extrême gauche à la droite, c'est toujours le même problème des mecs qui... Non mais ça me fait rire, mais qui occupent absolument
non, mais c'est
tout
vrai,
l'espace. Mais même, c'est quand même hallucinant de se dire, on milite dans un milieu en tout cas très gauche, très révolutionnaire, mais de quand même être confronté toujours au même problème qu'on rencontre dans la vie de tous les jours dans un système capitaliste. Je me dis, parce que moi, quand j'ai commencé à militer, c'est un peu aussi un truc de pouvoir échapper à des milieux un peu trop conflictuels avec des hommes. Je vais arriver dans un... Ça va être safe. Je vais être entourée que d'hommes un peu déconstruits sur un peu la virilité un peu toxique, mais souvent ce n'est absolument pas le cas. Quand tu milites généralement, ou même dans les topos, tu vois que c'est les mecs qui ils monopolisent la parole, ils sont là, ça crie dans tous les sens, ça t'écoute pas, et limite, ils te font du mansplaining ou en t'expliquant « Ouais, mais le féminisme, ça peut pas aller sans... Ouais, mais c'est la révolution avant, après on pensera à la condition des femmes, ou t'as des mecs qui sont là, ouais, bah t'as tes règles, bah du coup, ça sert à rien de... te lancer dans du militantisme si tu veux pas aller en manif parce que t'as tes règles, mais vraiment, mais c'est même dans les mouvements étudiants, j'ai déjà entendu des mecs qui disaient, ouais bah t'étonnes pas que tu te fasses taper par des flics si tu peux pas te défendre en tant que meuf, genre juste reste chez toi et venez pas nous casser les pieds dans nos luttes, tu vois, j'étais là, mais c'est hyper violent quand même, on s'est dit, mais attends, pour nous, en tant que femmes, c'est quoi l'alternative de lutte, enfin on va pas non plus... et créer une espèce de classe sociale femme. Déjà, il y en a déjà pas mal entre la bourgeoisie et la classe moyenne. Ça fait beaucoup. Et je sais pas, comment on peut remédier à ce problème? C'est aussi, comme tu disais, personne ne se réveille en étant déconstruite là-dessus. Mais je pense que ça devrait être le point cumulant avant de se lancer dans les milieux militantes ou alternatifs en tant qu'homme, d'essayer d'apporter un autre regard un peu... moins misogyne, moins sexiste, et s'est dit, ouais, bah, là, je suis prête à m'engager. Forcément, je vais être entourée de femmes, ou il y aura des femmes. Comment je fais pour ne pas les mettre mal à l'aise, ou juste prendre en considération le fait que c'est des êtres humains avant tout d'être un vagin sous pied. Je sais pas.
Bah, c'est... Puis, évidemment, ça ne concerne pas que aussi le féminisme, parce que j'imagine les luttes queer, c'est un petit peu le même problème. Et... toi, dans le collectif Les Déserteuses, j'imagine que vous avez du coup une organisation, si j'ai bien compris, qui est quand même très très horizontale, qui est assez informelle. Finalement, il n'y a pas tant de cadres que ça. Et est-ce que du coup, ces espaces de parole, vous en avez pour pouvoir exprimer ce type de doute ou ce type d'interrogation sur l'organisation de ces collectifs?
Aujourd'hui, on n'a pas d'espace de parole. Dans le collectif des déserteuses pour aborder tout ça parce que justement on l'a quand on s'organise ensemble, c'est-à-dire que par exemple on a eu un événement l'année dernière, on a fait un événement sur la désertion et il y a eu des sujets de
crispation
de crispation autour de questions justement de sexisme mais aussi de questions de classe. Et là, pour le coup, je trouve qu'on a été de mon point de vue encore, assez, enfin pas compétent, mais on l'a pris en main. C'est-à-dire que déjà, on avait posé un cadre au début de notre rencontre, on avait fait toute une liste de rappels des questions de privilèges, des questions de monopolisation de la parole, on avait mis en place des pratiques de soins, avec justement des possibilités pour les personnes d'avoir des temps d'écoute, des temps de, justement de remise en question ou d'amélioration du cadre qui était posé. On a eu des espaces, enfin on a eu un espace de mixité choisi du coup entre personnes, entre meufs intersexes sans binaire trans, qui était vraiment propice dans un espace où il y a surtout beaucoup de mecs cis hétéros. Et là, ça a permis, pour certaines personnes, c'était leur première expérience de mixité choisie. Et c'était leur première aussi conscientisation de comment le genre influe, en fait. Enfin, il n'y a pas que le genre, hein, mais comment le genre, là, c'était ça la question, c'est comment le genre va influer sur nos trajectoires de désertion, sur le fait, peut-être qu'on ne déserte pas aussi facilement, parce qu'en fait, on a déjà un monde hostile dans lequel on doit se battre, et donc on ne peut pas se jeter corps et âme dans des espaces collectifs sans penser toujours, et si un jour il y a du sexisme dans le collectif, est-ce que c'est moi qui vais devoir partir? Parce que c'est souvent ça qui se passe aussi. Bah, alors, après, dans. Il y a des choses qui, enfin moi je le vois hein, dans les alternatives, dans les milieux d'autonomie politique, il y a les luttes queer qui prennent plus position, plus d'espace et qui justement
viennent briser un peu ces anciens chemins.
Voilà, c'est ça, où il y a des
Ils en créent d'autres aussi également.
Il y a des choses qui se passent, mais on est encore au début, au balbutiement. Et en fait, justement, pour répondre à ton propos, Mariam, ce que je voulais ajouter, c'est que justement, quand on est face à c'est un peu comme ce que je disais au début, quand on n'est pas à sa place, quand on ne se sent pas à sa place, mais en fait, ça nous pousse aussi à s'auto-exclure et à créer des espaces en mixité choisie. Et du coup, c'est vrai que moi, j'en arrive à un stade, à un moment donné, de me dire, mais finalement, est-ce que la solution, c'est pas aussi de créer des collectifs en mixité choisie, que ce soit des mixités choisies en termes de race, en termes de genre, en termes de classe, en termes de mixité choisie queer, parce que, en fait, peut-être qu'au bout d'un moment, on est fatigué de jamais être au bon endroit, en fait. Et qu'on, des fois, on a juste envie de vivre. Et de se réapproprier nos existences.
Moi, ce sujet, j'ai un message pour les mecs cis qui se posent peut-être un peu des questions, parce qu'ils auront tout un intérêt stratégique à regarder en face ces problèmes-là avant de se retrouver tout seuls et de pleurer qu'ils sont tout seuls dans leur lutte. Et donc pour ça, il y a un questionnaire assez sympa qui circule qui s'appelle « Es-tu un manarchiste ?» Donc traduit...
Excellent, vraiment.
Voilà, si ça peut aider... Je vous le propose, on le retrouve très facilement sur Internet.
Eh bien, avis aux auditeurs surtout, cette fois-ci. Merci pour ce témoignage. Je pense que ça nous aide vraiment de porter un regard critique sur le fonctionnement de nos collectifs et pour que ça puisse nous permettre aussi de rendre la désertion désirable pour tous et toutes. Et je pense que tant qu'à parler d'autocritique, on peut écouter une chanson qui nous invite à l'introspection, proposée par Mariam.
Quand y a plus rien, c'est simple de déballer mon sac, annuler les concerts. Je décrirai l'arnaque de la planète entière. J'achète les fruits en vrac, je vais skier le cancer. Je n'ai aucune attache. Quand y a plus rien, c'est simple. Je réponds par des coups. Je mange des quantités de produits de la France. Je pars pas en vacances cette année. C'était pour nous. J'ai compris maintenant que c'est la fin de tout. Alors je vais le faire. Dire que l'âme c'est l'escroquerie vieille de millénaire qui a détrôné l'esprit et le rôle de la chair. Je me suis offert une rose parce que personne le faisait. Je me suis cassé une côte. J'essayais de me faire plaisir. Je suis peut-être info, mais comme tout est pété, pourquoi faire autre chose que de se bouffer les fesses? J'aime que moi je suis un queue tard. J'ai le mauvais rôle, écrire tout en gras, que la vie est rose, seulement quand je bois, on me met des sauces, quand je chante pour toi, j'en ai rien à foutre, moi je chante pour toi. Et la vie c'est le temps, et je le déteste encore plus que j'aime les enfants. On a mangé la viande du mouton pour l'Aïd, fait des mariages qui durent jusqu'au moment des rites. Immoler des voitures et saisir des bastilles, imiter les allures des personnages qui brillent, sacraliser des voiles cousues par l'industrie et sublimer la croûte pour pas goûter la mie. Et je connais la chanson. Tu agis comme un garçon, tu abuses de la boisson, t'es la plus mauvaise au fond. Oui mais moi je vous emmerde. J'ai le courage de l'admettre. Que je suis la plus mauvaise. Que je descends de l'arène. J'ai le mauvais rôle. Écrire tout en gras. Que la vie est rose. Seulement quand je bois. On me met des sauces. Quand je chante pour toi. J'en ai rien à foutre. Moi je chante pour toi. J'ai dit je vais tout brûler dans chacun de mes titres. Je voudrais être aimée, plus jamais être triste. Des valises et des sites avec tous les vestiges de Fatma et d'Isis pour décorer mon île. Que j'achèterai avec tout l'argent d'une SACEM. Que toujours je critique, il n'y a rien qu'on enseigne qui soit teinté de neutre, tout est blanc comme la neige. Foncé comme un feutre, alors pourquoi je baisse. Alors pourquoi je baisse, pour pas conduire une caisse. Pour pas grossir des fesses, pour pas toucher le fond. Pour pas sauter du pont, pour pas penser aux autres. Et défendre des causes, j'ai jamais eu la force. Je préfère être morte, alors maintenant je suis morte. Imaginez la scène qui aura de la peine. Je sais pas si on m'aime, je sais pas si on m'aime. Je suis la plus mauvaise, je suis la plus mauvaise. Et je connais la chanson. J'ai agi comme un garçon. J'ai vu c'est la boisson. C'est la plus mauvaise au fond. Oui mais moi je vous emmerde. J'ai le courage de l'admettre. Que je suis la plus mauvaise. Que je descends de l'arène. J'ai le mauvais rôle. Et que sous ton bras. Que la vie est rose. Seulement quand je vois. On me met des sauces. Quand je chante pour toi. Écrire tout en gras, que la vie est rose. Seulement quand je bois, on me met des sauces. Quand je chante pour toi, j'en ai rien à foutre. Moi je chante pour toi.
Radio Libertaire, c'était Brooke qui nous chantait Mauvais Rôle. Et pour aborder la dernière partie de cette émission, Mariam nous propose d'élargir le champ de notre réflexion à d'autres domaines que les travailleurs et travailleuses désertent.
Merci de faire mon introduction et merci Vivi pour vraiment tu m'as très bien éclairée sur le sujet. Et cela, en plus en travaillant justement sur ce sujet du jour, moi, ça m'a apporté une réflexion personnelle sur ma condition et sur celle des autres dans d'autres milieux que le milieu de l'ingénierie. Moi, je suis très anti-système. J'ai très souvent l'habitude de me présenter aux gens comme en étant anticapitaliste, féministe, antiraciste. Pourtant, ce que j'oublie de dire, c'est que je travaille chez McDonald's, qui est une honte en soi. Pourquoi ? Parce que c'est... Je travaille pour un système qui va totalement à l'encontre de tout ce qui me représente et de pourquoi je me réveille tous les jours en allant en manif. Et vous comprenez bien que cela porte des conflits d'intérêts personnels entre est-ce que je vends mon éthique et mes idéaux pour quelques sous qui ne me permettent même pas de survivre à la fin du mois, mais c'est une réalité que bien de gens ou d'étudiants se posent la question. Et moi, les gens qui arrivent à désater, je suis très admiratif. C'est vraiment quelque chose qui... Je suis là, mais à quel moment on arrive à cette réflexion de se dire « Ah, je quitte vraiment tout ce pourquoi j'ai fait des études. » Parce que les études, c'est très prenant. C'est quand même un énorme taf au quotidien, et que ce soit mental ou physique. Vraiment, c'est du coup surtout pour les gens qui sont dans le milieu de l'ingénierie qui arrivent à se dire après tant d'études et des fois de tout plaquer pour un peu pour le bien-être du monde, et ça, c'est à féliciter. Et je me pose la question de est-ce que je serais réellement capable de le faire. Je fais des études, je suis passionnée par le milieu du cinéma, par la mode, et c'est des milieux ou des secteurs qui sont très polluants. Et en tant que militante écologiste, c'est compliqué. Et justement, j'ai parlé de ça avec une amie avec laquelle je vais souvent à manif pour le climat, qui est anti-déchets, qui fait son tri, mais pourtant qui travaille dans une industrie qui est très polluante, la mode. Et du coup, je lui ai posé quelques questions de qu'est-ce que ça te fait de vendre ton temps à, comme je disais tout à l'heure, je travaille pour McDo et c'est pas ouf. Qu'est-ce que ça te fait de vraiment mettre un peu en pause le temps de quelques heures, tout, enfin,
tes principes ou un peu un accomplissement personnel et individuel. C'était de « Ah non, mais je le fais parce que j'aimerais bien changer les choses, essayer de trouver une alternative, justement en essayant de rentrer dans les milieux un peu très sélectifs de la mode, en se disant « Je vais arriver, je vais pouvoir peut-être changer les choses à mon échelle. » Parce que je pense que c'est pas possible. Parce que peu importe le taf ou le job, quel positionnement on tient dans les entreprises, on travaille toujours pour un grand patronat et pour un système qui est un système d'oppression pour tout, pour plein de gens, sauf les petits bouges, bien évidemment. Et mais c'est très... Oui, ça, je trouve ça admirable quand même de se dire, je vais arriver dans un milieu qui n'est pas le milieu le plus safe, que ce soit pour la personne ou pour la planète, et de se dire, je vais essayer de changer les choses à mon échelle personnelle. Sauf qu'on ne peut pas tout le temps se dire, ah, je vais essayer de changer les choses à mon échelle personnelle et d'essayer de faire de la mode un peu écolo. Pour moi, c'est une alternative qui n'est pas envisageable. Il faut remettre tout le système en bas et tout recommencer de zéro, et non juste pas se dire c'est ça le problème avec la gauche réformiste qui essaie juste de faire des réformes et de là ça ne fonctionne pas, il faut de réels changements concrets. Et l'exemple qui fait le plus écho justement avec moi, vu que je suis passionnée par le cinéma, le théâtre, c'est l'exemple avec l'actrice Adèle Haenel, je sais pas si je prononce bien le nom et les pronoms. Mais oui, c'est de voir à quel point les gens qui sont passionnés par quelque chose qui c'est quand même le travail et qui arrivent à renoncer à un confort et à un mode de vie auquel on a toujours aspiré, arriver, jouer dans des films, monter les matchs des grands festivals, avoir de la reconnaissance, et quand même se dire à quel point on est dans un monde tellement pourri et de se dire « je lâche tout ». C'est ça, c'est à quel moment on arrive, c'est de se voir, c'est de se dire que ouais, tout, tellement rien ne fonctionne, qu'il y a des gens qui arrivent quand même à foutre toute la vie en l'air parce que le système ne fonctionne plus, le système est obsolète, mais non, ça pourrait... Et de se dire non, mais on va essayer de trouver des réelles solutions concrètes. Et aussi, par rapport à la désertion, il y a cet exemple, je me dis, les gens qui travaillent souvent, il y a aussi le problème du confort personnel, de l'individualisme qui se pose, de se dire, oui, il y a aussi le fait que le système traditionnel éducatif, c'est de se dire, on se met en compétition, on fait des études, et de se dire, ah, moi je suis anti-système, du coup je vais un peu renoncer à tout mon travail, renoncer et ne pas récolter le fruit de mon travail dans un monde... dans lequel je souhaiterais vivre, un monde où je ne m'inquiète pas du jour au lendemain, un effondrement. Je suis un peu collapsologique sur le bas, mais oui, c'est un peu ça. Je me dis, ah, si, oui, je veux faire du théâtre, je veux faire de la socio, je fais des études, ça me prend la tête, ma santé mentale, rien ne va. Mais à la fin, je me rends compte que je vais devoir travailler pour un système qui est un système... un monstre, en quelque sorte, le grand méchant capital, et renoncer à ça. Et toi, tu as réussi à le faire, et tous les gens qui arrivent à le faire, c'est... Moi, c'est vraiment... Je suis très admirative, comme je disais, mais la question que je me pose, c'est... Du coup, vu qu'il y a tout ce paramètre qui rentre en compte, des études, des années, de comment les conflits entre personnels, aussi cette histoire de vouloir... l'ascension sociale, quand tu fais des études et quand tu viens d'un milieu pas très aisé et que tes parents comptent, entre guillemets, sur toi, tu t'es dit, mais je ne peux pas renoncer non plus à mes années d'études et je ne peux pas renoncer à un confort que je cherche en allant faire des études, parce que c'est un peu ça, les étudiants qui font des études universitaires, intellectuelles, c'est un peu échapper à une condition de se dire, je ne veux pas faire partie de la classe ouvrière. Et du coup, je me dis, donc, si on parle de ce postulat, qui peut réellement déserter? Comme tu disais dans ton témoignage, c'est reste quand même un milieu très... où t'accueilles des personnes blanches. Et il y a aussi la question de la France, elle n'est pas totalement blanche, de pourquoi il n'y a pas de personnes de couleur qui désertent. Genre, est-ce qu'il y a vraiment des études de, qui montrent quel genre, quelle classe désertent ? Parce que je pense que les gens qui... Aussi, il y a aussi la question du capital qui rentre en compte de... Avant de déserter, il faut avoir de l'argent de côté. Et donc, et ceux qui n'ont pas de l'argent de côté ne peuvent pas déserter. Et aussi, par rapport aux questions de classe, de race, qui déserte ? Et aussi, donc, si on parle du principe que tout le monde ne peut pas déserter, pourtant, je pense que c'est un peu la solution la plus radicale en ce moment, vu qu'on va tous travailler et se faire exploiter. Donc, désertons tous et toutes. Mais on ne peut pas réellement tout le faire. Ce n'est pas une alternative qui est envisageable pour tout le monde. Donc, est-ce que la désertion, c'est réservé qu'à une classe, à une couleur, à un genre spécifique oui, du coup, à partir de cela, est-ce que c'est vraiment pertinent comme choix politique, la désertion ? Parce que ça n'a pas un écho majoritaire et ça ne touche pas en large public Et je vais m'arrêter sur cette question-là, si tu peux un peu m'éclairer encore plus, davantage que tu l'as fait depuis tout à l'heure.
Merci. Merci pour ces remarques qui sont très justes. Me conduit justement à préciser que la désertion, c'est pas un projet politique universaliste. Enfin, en fait, les ingénieurs ne doivent pas ériger un modèle de désertion. Ça serait complètement absurde. Justement, l'idée, moi, en tout cas, que je pars dans la désertion, c'est les personnes qui sont privilégiées et qui exercent des métiers nuisibles doivent s'interroger sur leur rôle de complice du désastre et se déplacer pour se mettre au service d'eux. Ça, c'est ce que je porte dans ma vision de la désertion, ce que porte aussi le collectif des déserteuses. Et à aucun moment, l'idée, c'est d'ériger la désertion comme un projet de développement personnel et une injonction à une bonne radicalité militante. En fait, la désertion, la désertion de l'ingénierie, elle vient répondre à un problème bien particulier. Et justement, pour moi, les personnes, par exemple, les personnes de classe ouvrière, les personnes racisées, les personnes queer, plein d'autres personnes. Et puis, il y a des ingénieurs qui sont racisés, qui sont queer. Du coup, il y a aussi un mélange. Mais c'est-à-dire que ces questions-là, par exemple, de conditions de vie, de conditions de travail, elles doivent être pour moi portées par et pour les personnes concernées. Et du coup, si ça doit être des luttes sociales pour exiger des meilleures conditions de travail, alors les ingénieurs déserteurs heureuses doivent être en soutien de ces luttes sociales pour obtenir des meilleures conditions de travail. Et si l'idée, c'est de généraliser une sortie du travail marchand, et dans ce cas-là, justement, il faut se poser des questions avec les personnes concernées et de voir... Enfin, il y a peut-être des discussions à avoir sur comment on peut être en soutien. Est-ce que vraiment le soutien des ingénieurs est souhaitable ? Enfin, des ingénieurs déserteurs est souhaitable ? Ou est-ce que vaut mieux qu'on se mette de côté ? Enfin, l'idée, c'est justement de ne pas être totalisant sur toutes ces autres trajectoires. En fait, il n'en existe pas qu'une.
Oui.
Et je pense que c'est hyper important de le rappeler.
Oui, c'est comme je disais, du coup, vu qu'il y a d'autres milieux aussi qui se mettent à déserter, je me dis, est-ce que c'est la pertinence, en fait ? Je me dis, est-ce que ces personnes ne peuvent pas rester justement dans ces... Comme, après aussi, c'était plein de réflexions de... est-ce qu'il y a une solution, il y a un alternatif, ou il y a d'autres façons de faire, et de se dire, la désertion, c'est peut-être pas si pertinent politiquement. Peut-être que c'est justement ces gens qui ont les bonnes idées. Comme je dis, les bonnes idées, c'est vraiment les gens qui pensent avant tout à la planète et à l'humain avant tout. au lieu de penser à un bien-être confortable ou matériel, c'est dit, bah justement, ces personnes qui ont ces idées, si elles se mettent tous à déserter de ces milieux, bah, qu'est-ce qui va rester? Du coup, les gens qui vont rester entre soi dans ces milieux, qu'est-ce que ça va donner? Enfin, créer encore plus de désastres écologistes. Par exemple, le choix de l'actrice Abdelhanel, qui est très louable, c'est de se dire, mais est-ce que c'est le, peut-être pour elle, personnellement, c'est le meilleur choix de s'éloigner d'une industrie qui la met au plus mal, auquel elle ne croit absolument plus, qui est sexiste, misogyne, tout ce qu'on veut. De se dire, mais justement, reste dans ce milieu et essaye d'apporter un nouveau regard, de faire des films, justement, qui font écho à la situation de plein de femmes, de personnes qui subissent des discriminations tout au long de la vie. Enfin, c'est aussi ça. Et pouvoir donner la chance aussi à un nouveau regard au monde du cinéma. Est-ce que, du coup, tous ces actrices ou réalisateurs qui sont portés d'idées révolutionnaires ou d'idées écologistes qui se mettent à désater et quitter complètement tout l'industrie du cinéma, je me dis, il ne restera plus que des réalisateurs, des enfoirés et des enfoireuses pour faire des films qui ne parleront qu'à la majorité et qui porteront encore plus les idées capitalistes de la surconsommation à l'outrance, créer des produits, des films, toujours plus pour pousser les gens à une surconsommation. Et surtout, ça va être des films un peu, sur le fond, très moyens. Enfin, je me disais donc.
Ouais, non, mais c'est des vrais sujets, c'est des sujets qui sont hyper vastes. Pour repréciser, peut-être, par exemple, dans le collectif où je vis, il y a des ingénieurs déserteuses, mais pas que. Enfin, il y a des personnes qui viennent, qui étaient enseignants, qui travaillaient chez Pôle emploi, d'autres artisans, artisanes, des personnes aussi qui se retrouvaient à un moment donné à la rue. Donc, c'est des trajectoires, en fait, de désertion, je dirais, des fois forcées, en fait. Oui. Ou en fait qui sont mises au rebut de la société. Il y a aussi des infirmières, infirmières déserteuses. En fait, il y a des personnes qui travaillent en restauration qui ne veulent plus travailler. Enfin, en fait, c'est un mouvement aussi, pas que nécessairement les ingénieurs participent, et qu'en fait, des personnes en fait, sont en souffrance, en telle souffrance au travail, qu'au bout d'un moment, ce n'est pas des questions écologiques, mais des questions de survie. En fait, c'est une question de survie, que le coût de tout ce qu'il y a à perdre en quittant sa position de confort au travail, c'est tellement plus une position de confort qu'il vaut mieux déserter et trouver d'autres solutions. En fait, vaut mieux des fois être au RSA et trouver d'autres solutions, tellement en fait les conditions de travail deviennent insupportables. Et du coup, ça, c'est aussi une réalité. Et du coup, beaucoup de ces personnes se retrouvent dans les milieux militants. Pas nécessairement que écolo, mais des milieux d'écologie radicale, ou qui vont mêler lutte sociale, lutte environnementale. Enfin, en fait, c'est pour moi une même lutte. En fait, il y a des trajectoires de désertion qui sont pas spécifiques à l'ingénierie, mais donc de plein de classes sociales différentes. Et par rapport à Adèle Haenel, c'est une vraie question aussi. Moi, par exemple, si je le compare à ma trajectoire, je me sens bien plus efficace là où je suis pour aller vers mes idéaux politiques et de construire collectivement des choses que dans le bureau où j'étais. Et je pense que pour Adèle Haenel, c'est un peu ça aussi, que si elle restait à faire, en effet, comme tu dis, des films qui peuvent montrer autre chose que la violence patriarcale au cinéma, est-ce qu'elle serait aussi efficace? Je sais pas. Est-ce qu'elle continuerait pas de soutenir ce système-là? Finalement, je sais pas.
Non, c'est des réflexions et de, justement, sur la désertion, je pense que c'est important de se le dire aussi, de se dire, justement, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui pensent ainsi, mais bon. On va s'arrêter là, mais...
Ouais, je pense que là, on va devoir laisser la place à l'émission suivante. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage et cette discussion, notamment sur toutes les limites aussi de nos collectifs, ce qui est important aussi de souligner pour pouvoir avancer. Et nous, on va se retrouver le mois prochain, donc, puisqu'on ne vous abandonne pas pendant l'été, même si nos partiels sont passés, on revient. Et ce sera le 17 juin, donc toujours à 10h, pour délibérer. Et en attendant, je vous laisse sur une proposition, encore une fois, de notre invitée Vivi. On la remercie encore. Vue sur la mer de Poupie.
appris tout ce qu'il y a à apprendre dans cette vie, je veux l'apprendre. Je veux plus attendre qu'on me dise que je dois attendre. Si je m'endurcis, c'est que j'ai vu mon âme se fendre, mon âme en cendre. J'ai bien compris, je suis comme Paris à Barcelone, j'ai plus me défendre. Je veux pas de mari, pas qu'un seul homme, je veux pas me rendre. Je voulais pas fuir, mais y'a personne qui me fera redescendre. Je peux pas descendre, mais c'est ainsi. Et toutes mes heures sont des secondes car je les vis. Et toute ma vie je rêvais d'un monde un peu moins vide. Je veux mon bonheur et si je me trompe, je veux pas qu'on me vise. Je veux pas qu'on me vire, alors je prie. Si tu savais combien j'ai tort, combien j'ai ri. J'ai vu sur mer, vu sur la mort, vu sur la vie. De toute manière je veux ni ton or ni ton avis. Je veux juste ma vie. Je perds du temps à tes côtés, je me fais du tort. Pourtant je rêve, de quoi j'ai peur. J'ai plus envie, ça fait longtemps. Ma voix lactée m'attend dehors. Faut pas que je traîne, faut pas que j'ai peur. Et c'est ainsi, je revois la fin, je revois le film, je me vois enfant. Je revois comment ceux qui te font mal ont mal avant. J'en vois des signes, je vois en gros, mais c'est fini. Je revois le monde, je revois le temps, je revois ma vie. Si tu savais combien j'ai tort, combien j'ai ri. J'ai vu sur mer, vu sur la mort, vu sur la vie. De toute manière, je veux pas ton or ni ton avis. Je veux juste ma vie, je veux juste ma vie. Je perds du temps à t'écouter, je me fais du tort. Pourtant je rêve, j'ai encore peur. J'ai trop envie, ça fait longtemps. Ma voix lactée m'attend dehors. Faut pas que je traîne, faut pas que j'ai peur, faut pas que j'ai peur.
Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste
et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.